Chapitre 4. Le vieux druide. Les trois complices, qui connaissaient à merveille toutes les finesses de la langue française et n'ignoraient aucun terme d'argot, ne se trompèrent pas un instant sur le sens véritable de cette exclamation imprévue. Ils furent stupéfaits. Vorsky interrogea Conrad et Otto.
Hein? Que dit-il?
Oui, vous avez bien entendu. C'est cela.
À la fin, Vorsky fit une nouvelle tentative sur l'épaule de l'inconnu, lequel se retourna sur sa couche, s'étira, bâilla, parut se rendormir et soudain, vaincu, proféra en s'asseyant à demi.
Enfin quoi? On peut non plus roupiller à son aise dans cette boîte-là.
Un jet de lumière l'aveugla, et il marmotta effaré.
Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on veut?
Vorsky posa la lanterne sur un ressaut de la paroi, et son visage apparut ainsi en pleine clarté. Le vieillard, qui continuait d'exhaler sa mauvaise humeur en plaintes incohérentes, regarda son interlocuteur, se calma peu à peu, prit même une expression aimable, presque souriante, et tendant la main s'écria
« Oh mais ça, c'est donc toi, Vorsky! Oh, et comment vas-tu, vieille branche ?»
Vorsky eut un haut-le-corps, qu'il fut connu du vieillard, et que celui-ci l'appela par son nom, cela ne l'étonnait pas outre mesure, puisqu'il avait la conviction, en quelque sorte mystique, qu'il était attendu comme un prophète. Mais pour un prophète, pour un missionnaire illuminé et vêtu de gloire, qui se présente devant un inconnu que couronne la double majesté de l'âge et du rang sacerdotal, il était pénible d'être accueilli sous la désignation de « vieille branche ». Hésitant, inquiet, ne sachant à qui il avait affaire, il demanda
« Qui êtes-vous? Pourquoi êtes-vous ici? Comment êtes-vous venu ?»
Et comme l'autre le contemplait d'un air surpris, il répéta plus fortement
« Répondons, qui êtes-vous ? » ?»«
Ce que je suis ? Par tête, Dieu des Gaulois, c'est toi qui me poses une pareille question ? Alors, tu ne me reconnais pas ? Voyons, rappelle-toi, ce bon Cégénax, hein ? Tu te souviens ? Le père de Véléda, ce bon Cégénax, magistrat vénéré chez les Raidons, de qui Chateaubriand parle au tome premier de ses martyrs. Ah, je vois que ta mémoire se rafraîchit.
Qu'est-ce que vous me chantez là?
Je ne chante pas. J'explique ma présence ici et les tristes événements qui m'y ont amené jadis. Dégoûté par la conduite scandaleuse de Véléda qui avait fauté avec le sinistre Eudore, je suis entré, comme qui dirait aujourd'hui, à la trappe. C'est-à-dire que j'ai passé brillamment mon bachot, S-druide, et depuis, à la suite de quelques frasques, presque rien, trois ou quatre bordées vers la capitale où m'a tiré ma bille, et plus tard le moulin rouge. Depuis, j'ai dû accepter la petite place que j'occupe ici. Oh, un poste de tout repos, comme tu vois, gardien de la pierre-dieu. Un poste d'embusqué, quoi.
La stupeur et l'inquiétude de Vorsky augmentaient à chaque parole. Il consulta ses compagnons.
Cassez-lui la tête, c'est mon idée et je n'en démords pas.
Et toi, Otto?
Moi, je dis qu'il faut se méfier.
Évidemment, il faut se méfier.
Mais le vieux druide entendit le mot. S'aidant d'un bâton sur lequel il s'appuyait, il se leva et cria.
Qu'est-ce que ça signifie? Se méfier de moi? Les raides, ceux-là! Me traiter de fumiste! Tu n'as donc pas vu ma hache? Et sur le manche de cette hache, le dessin de la croix gammée? Hein? La croix gammée, le signe solaire cabalistique par excellence? Et ça, hein, qu'est-ce que c'est?
Il montrait son chapelet d'oursin.
Hein? Hein? Qu'est-ce que c'est? Des crottes de lapin? Ah, vous en avez du culot. Appelez des crottes de lapin des œufs de serpent.
des œufs qui finissent par former de la bave et de l'écume de leur corps mêlé, et qu'ils en rejettent l'air au milieu des sifflements. C'est Pline lui-même qui l'a dit.
Eh, tu vas pas aussi traiter Pline de fumiste, j'espère. En voilà un client. Se méfier de moi, alors que j'ai tous mes diplômes de vieux druide, toutes mes patentes, tous mes brevets, tous mes certificats signés par Pline et par Chateaubriand. Quel culot! Non mais vrai, tu en trouveras des vieux druides de mon espèce, authentiques, de l'époque, avec leurs patines anciennes et leurs barbes séculaires. Moi, un fumiste! Moi qui possède toutes les traditions et qui jongle avec les coutumes d'antan. Veux-tu que je te danse le pas du vieux druide tel que je l'ai dansé devant Jules César? Le veux-tu?
Et sans attendre la réponse, le vieillard, jetant son bâton, se mit à esquisser des entrechats fantaisistes et des gigues échevelées avec une souplesse tout à fait extraordinaire. Et c'était le spectacle le plus cocasse que de le voir sauter et tourniquer, le dos ployé, les bras ballants, les jambes fusant à droite et à gauche, de dessous la tunique, la barbe suivant les évolutions du corps qui se trémoussait, tandis que la voix chevrotante annonçait successivement les diverses reprises.
Le pas du vieux druide, ou les délices de Jules César, ohé ohé, la danse du gui sacré, vulgairement appelée danse de Saint-Guy, la valse des œufs de serpent, avec musique de Pline, ohé ohé, plus de spleen, la vorska ou tango des 30 cercueils, l'hymne du prophète rouge, alléluia, alléluia, gloire au prophète.
Quelques moments encore, il continua ses bons endiablés. Puis, brusquement, il s'arrêta devant Vorski. Et d'un ton grave,
« Oh, assez de bavardage. Parlons sérieusement. Je suis chargé de te remettre la pierre Dieu. Maintenant que tu es convaincu, es-tu prêt à prendre livraison de la marchandise ?»
Les trois complices étaient absolument ahuris. Vorski ne savait que faire, impuissant à comprendre ce que c'était que ce damné personnage.
Fichez-moi la paix. Que voulez-vous? Quel est votre but?
Comment mon but? Mais je viens de te le dire, te remettre la pierre Dieu.
Mais de quel droit? À quel titre?
Le vieux druide hocha la tête.
Oh oui, je saisis la chose. Ça ne se passe pas du tout comme tu croyais. « Évidemment, n'est-ce pas? Ah ben, tu arrives ici tout frétillant, heureux et fier de l'œuvre accomplie. Ah ben, juge un peu de la fourniture pour 30 cercueils, 4 femmes en croix, des naufrages, du sang plein tes mains, des crimes plein tes poches. Tout ça, ce n'est pas de la petite bière. Et tu t'attendais à une réception imposante, avec cérémonie officielle, pompe solennelle, chœur antique, théorie de bages et de bardes, ostensoirs, sacrifices humains, enfin du chichi, le grand jeu gaulois. Et au lieu de cela, un pauvre diable de druide qui roupit dans un coin et qui t'offre tout crûment la marchandise. Quelle chute, mes seigneurs! Et que veux-tu, Vorski? On fait ce qu'on peut et chacun agit selon ses moyens. « Je ne roule pas sur l'or, moi, et je t'ai déjà avancé, outre le blanchissage de quelques tuniques blanches, 13,40 francs pour feu de Bengale, jet de flamme et tremblement de terre nocturne. »
Vorski tressauta, hors de lui, comprenant soudain.
« Qu'est-ce que vous dites? Comment? C'était... »«
Pour sûr que c'était moi. Et qui voulais-tu que ce fût? Saint-Augustin ?» À moins que tu n'aies supposé une intervention divine, et qu'hier soir dans l'île, les dieux aient pris soin de t'envoyer un archange vêtu d'une tunique blanche pour te conduire au chêne creux. Vraiment, tu exagères.
Vorski serra les poings. Ainsi, l'homme vêtu de blanc, qu'il avait poursuivi la veille, n'était autre que cet imposteur.
Oh, je n'aime pas beaucoup qu'on se paie ma tête.
et qu'on se paie ta tête. Tu en as de bonnes, mon petit. Et qui donc m'a traqué comme une bête fauve, que j'en étais à bout de souffle? Et qui donc m'a collé 2 balles dans ma tunique numéro 1? En voilà un client. Aussi, ça m'apprendra à faire le zèbre.
Assez. Pour la dernière fois, qu'est-ce que vous me voulez?
Je m'esquinte à te le dire. Je suis chargé de te remettre la pierre Dieu.
Chargé par qui?
Ça, je n'en sais fichre rien, par exemple. J'ai toujours vécu avec cette idée qu'il apparaîtrait un jour à Sarek un nommé Vorski, prince germain, qui abattrait ses 30 victimes et à qui je devais faire un signal convenu lorsque sa 30e victime rendrait le dernier soupir. Alors, comme je suis esclave de la consigne, j'ai préparé mon petit baluchon, j'ai acheté chez un quincailler de Brest 2 feux de Bengale à 3 francs 75 pièces, plus quelques pétards de choix, et à l'heure dite, je me perchais dans mon observatoire, un rat de cave à la main, tout prêt. Et quand tu as gueulé du haut de ton arbre, « Elle est morte !» J'ai pensé que c'était le bon moment. J'ai allumé mes bengales et avec mes pétards, j'ai secoué les entrailles de la terre. Et voilà, tu es fixé.
Vorski avança, les poings levés. Ce flux de paroles, ce flegme imperturbable, cette faconde, cette voix goguenarde et tranquille, tout cela le mettait hors de lui.
Un mot de plus et je t'assomme, j'en ai assez.
T'appelles-tu Vorski?
Oui, et après?
Es-tu prince germain?
Oui, et après?
As-tu abattu tes 30 victimes?
Oui.
Eh ben alors, tu es mon homme. J'ai une pierre Dieu à te remettre, je te la remettrai coûte que coûte. C'est comme ça que je suis, moi. Il faut que tu la bouffes, ta pierre à miracle.
Mais je m'en moque de la pierre à miracle. Et je me moque de toi, je n'ai besoin de personne. La pierre Dieu, mais je l'ai, elle est à moi, je la possède.
Montre-voir.
Et ça, qu'est-ce que c'est?
Fit Vorski en sortant de sa poche la petite bille trouvée dans le pommeau.
Ça? Et où as-tu pêché ça?
Dans le pommeau de ce sceptre que j'ai eu l'idée de dévisser.
Et qu'est-ce que c'est?
C'est un fragment de la pierre Dieu.
Tu es fou.
Alors, qu'est-ce que c'est, selon toi?
Ça, c'est un bouton de culotte.
Hein?
Un bouton de culotte.
La preuve.
Un bouton de culotte dont la tige est cassée. Un bouton de culotte comme on emploie les nègres du Sahara. J'en ai toute une parure.
La preuve, sacre Dieu.
C'est moi qui l'y ai mis.
Pourquoi faire?
Et pour remplacer la pierre précieuse que Magnoc avait chipée, celle qu'il a brûlée et qu'il a forcée à se couper la main.
Vorski se tut. Il était désorienté. Il ne savait plus quel parti prendre et quelle conduite tenir à l'égard de ce singulier adversaire. Le vieux druide se rapprocha de lui et, doucement, d'un air paternel,
« Non, vois-tu, mon petit, tu n'en sortiras pas sans moi. » Et moi seul ai la clé de la serrure et le mot du coffre. Pourquoi hésites-tu?
Je ne vous connais pas.
Enfant, si je te proposais quelque chose d'indélicat et qui soit incompatible avec ton honneur, je comprendrais tes scrupules. Mais mon offre est de celle qui ne saurait froisser la conscience la plus chatouilleuse. Hein? Ça colle? Non? Pas encore?
« Mais par de ta thèse, qu'est-ce qu'il te faut, incrédule Vorski?
Un miracle, peut-être? Oh, Seigneur, pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? Mais des miracles, j'en ponterais à la douzaine. Tous les matins, en prenant mon café au lait, j'accomplis mon petit miracle. Pense donc, un druide. Des miracles? Mais j'en ai plein ma boutique. Je ne sais plus où m'asseoir. Et qu'est-ce que tu préfères? Rayon de résurrection? Rayon des cheveux qui repoussent, de l'avenir dévoilé, tu n'as que l'embarras du choix. Tiens, à quelle heure ta 30e victime a-t-elle exhalé son dernier soupir?
Est-ce que je sais?
11h52. ton émotion fut si forte que ta montre en a été arrêtée. Regarde. »
C'était absurde. Le choc produit par l'émotion n'a aucun effet sur la montre de celui qui a subi cette émotion. Cependant, malgré lui, Vorsky tira sa montre. Elle marquait 11h52. Il essaya de la remonter. Elle était cassée. Le vieux druide, sans lui laisser le temps de reprendre haleine, continua.
« Ça t'épate, hein ? Oh, rien de plus simple, cependant, et de plus facile pour un druide un peu à la hauteur. Un druide voit l'invisible. Bien plus, il le fait voir à qui ça lui chante. Vorsky, veux-tu voir ce qui n'existe pas ? Quel est ton nom ? Je ne parle pas de ton nom de Vorsky, mais de ton vrai nom, du nom de ton papa.
Silence là-dessus. C'est un secret que je n'ai révélé à personne.
Alors pourquoi l'écris-tu ?
Je ne l'ai jamais écrit.
Vorsky, le nom de ton père est inscrit au crayon rouge à la page 14 du petit carnet que tu portes sur toi. Regarde.
Machinalement, comme un automate dont les gestes sont réglés par une volonté étrangère, Vorsky sortit de la poche intérieure de son gilet un portefeuille qui contenait un cahier de pages blanches cousues ensemble. Il les feuilleta jusqu'à la 14e, puis marmotta avec un effroi inexprimable.
« Est-ce possible ? Qui a écrit cela ? Et vous connaissez ce qui est écrit ?
Veux-tu que je te le prouve ?
Silence, encore une fois, je vous défends.
À ta guise, mon vieux. Moi, ce que j'en fais, c'est pour t'édifier. Ça me coûte si peu. Quand je commence à opérer des miracles, je peux plus m'arrêter. Et encore un, histoire de rigoler. Tu portes à ton cou, sous ta chemise, un bout d'une chaînette d'argent, un médaillon.
Oui,
fit Vorsky, dont les yeux brillaient de fièvre.
Ce médaillon forme un cadre vide de la photographie qui l'encerclait autrefois.
Oui, oui, un portrait représentant...
Représentant ta mère, je le sais, et que tu as perdu.
Que j'ai perdu l'an dernier.
Dis plutôt que tu crois l'avoir perdu, ce portrait.
Allons donc, le médaillon est vide.
Tu crois qu'il est vide. Il ne l'est pas. Regarde.
Toujours d'un mouvement mécanique, les yeux écarquillés, Vorsky défit le bouton de sa chemise et tira la chaînette. Le médaillon apparut. Il y avait dans un cercle d'or un portrait de femme.
C'est elle. C'est elle.
Pas d'erreur ?
Non.
Alors, que dis-tu tout cela, hein ? C'est pas du chiquet. C'est pas du battage. Le vieux druide est un type d'attaque. Et tu vas le suivre, n'est-ce pas ?
Oui.
Vorsky était vaincu. Cet homme le subjuguait. Ses instincts superstitieux, ses croyances ataviques aux puissances mystérieuses, sa nature inquiète et déséquilibrée, tout lui imposait une soumission absolue. Sa défiance persistait, mais ne l'empêchait pas d'obéir. Il demanda...
Est-ce loin ?
À côté, dans le grand salon.
Otto et Conrad avaient écouté le dialogue en témoin abasourdi. Conrad essaya de protester, mais Vorsky lui ferma la bouche.
« Si tu as peur, va-t'en. Du reste, nous ne marchons que le revolver au poing. À la moindre alerte, feu !»«
Feu sur moi !»
Feu sur n'importe quel ennemi.
Eh bien, passe le premier, feu Vorsky.
Et comme l'autre se rebiffait, il éclata de rire.
Feu Vorsky, tu n'as pas l'air de trouver ça drôle. Non, moi non plus d'ailleurs. Seulement, il faut bien s'amuser. Eh bien quoi, tu ne passes pas.
Il les avait amenés tout au bord de la crypte, dans une masse d'ombre où la lanterne leur montra une fente creusée au pied de la muraille et qui s'enfonçait en descendant. Après une hésitation, Vorsky passa. Il dut ramper à genoux et sur les mains dans ce couloir étroit et tortueux, d'où il déboucha, une minute plus tard, au seuil d'une grande salle. Les autres le rejoignirent. Le vieux druide déclara solennellement
« La salle de la pierre-dieu !»
Elle était profonde et majestueuse, pareille comme dimension et comme forme à l'esplanade au-dessous de laquelle elle s'étendait. Le même nombre de pierres debout, qui semblaient les colonnes d'un temple immense, se dressaient aux mêmes endroits et composaient les mêmes alignements que les menhirs de l'esplanade, pierres taillées de la même façon à coups de hache ignorantes et sans souci d'art ou de symétrie. Le sol était fait de dalles énormes et irrégulières, coupées par un système de rigoles et sur lesquelles s'étalaient, venus d'en haut et distants les uns des autres, des cercles de lumière éclatante. Au centre, sous le jardin de Magnoc, un échafaud de pierres sèches s'élevait, haut de 4 ou 5 mètres. Là-dessus, un dolmen aux deux jambes robustes portait une table de granit en forme d'ovale allongée.
« C'est elle ?»
articula Vorsky d'une voix étranglée. Sans répondre directement, le vieux druide prononça
« Et qu'en dis-tu ? Ils avaient le chic pour construire nos ancêtres. Oh, et quelle ingéniosité ! Quelle précaution contre les regards indiscrets et contre toutes les recherches profanes ! Sais-tu d'où vient la lumière ? Car nous sommes dans les entrailles de l'île et pas de fenêtre sur l'espace. La lumière vient des menhirs supérieurs, lesquels sont percés du haut en bas d'un canal qui va en s'évasant et qui dispense la clarté à plein flot. À midi, avec le soleil, oh, c'est féerique. Toi qui es un artiste, tu hurlerais d'admiration.
C'est bien elle, alors.
En tout cas, c'est une pierre sacrée, puisqu'elle dominait le lieu des sacrifices souterrains les plus importants de tous. Mais il y en a une autre en dessous que protège le dolmen, que tu ne vois pas d'ici. Et c'est sur elle que l'on immolait les victimes de choix. Le sang coulait de l'échafaud et s'en allait par toutes ses rigoles jusqu'aux falaises, jusqu'à la mer.
Vorsky demanda de plus en plus agité.
« Alors, c'est celle-là. Avançons. »«
Oh, pas besoin de bouger. Oh, ce n'est pas encore celle-là. » Il y en a une troisième, et cette troisième, pour l'apercevoir, il te suffit de relever un peu la tête.
Où ? Vous êtes sûr ?
Parbleu, regarde bien au-dessus de la table supérieure. Oui, dans la voûte même qui forme le plafond et qui semble une mosaïque de grandes dalles. N'est-ce pas ? Et tu la reluques d'ici. Une dalle qui fait bande à part, allongée comme la table inférieure et taillée comme elle. On dirait les deux sœurs, mais il n'y en a qu'une de bonne, ayant la marque de fabrique.
Vorsky était déçu. Il s'attendait à une présentation plus compliquée, à une cachette plus mystérieuse.
Ah, la pierre Dieu, cela ? Mais elle n'a rien de particulier.
Oh, de loin, non, mais de près, tu verras. Il y a des veines de couleur. Des filons rutilants, un grain spécial, enfin quoi, la pierre Dieu. D'ailleurs, elle ne vaut pas tant par sa matière que par ses propriétés miraculeuses.
De quel miracle s'agit-il ?
Oh, elle donne mort ou vie, comme tu sais, et elle donne bien d'autres choses.
Lesquelles ?
Oh, fichtre, tu m'en demandes trop, je n'en sais rien, moi.
Comment ? Vous ignorez ?
Le vieux druide se pencha et en confidence.
Oh, écoute, Vorsky, je t'avouerai que je me suis un peu vanté et que mon rôle, tout en étant d'une importance capitale, gardien de la pierre Dieu, c'est un poste de première ligne, que mon rôle est limité par une puissance en quelque sorte supérieure à la mienne.
Quelle puissance ?
Celle de Velleda.
Vorsky l'observa, de nouveau inquiet.
Velleda ?
Ou du moins, celle que j'appelle Velleda, la dernière druidesse, et dont je ne connais pas le vrai nom.
Où se trouve-t-elle ?
Ici.
Ici ?
Oui, sur la pierre du sacrifice. Elle dort.
Comment elle dort ?
Elle dort depuis des siècles, depuis toujours. Moi, je ne l'ai jamais vue qu'endormie, d'un sommeil chaste et paisible. Comme la belle au bois dormant, Véléda attend celui que les dieux ont désigné pour la réveiller. Et celui-là...
Celui-là ?
C'est toi, Vorsky.
Vorsky fronça les sourcils. Qu'est-ce que c'était que cette histoire invraisemblable ? Et où donc voulait en venir l'énigmatique personnage ? Le vieux druide continua.
Ça te chiffonne, on dirait. Voyons, c'est pas une raison parce que tu as les mains rouges et 30 cercueils sur le dos pour que tu n'aies pas le droit d'être promu prince charmant. Oh, tu es trop modeste, mon petit. Tiens, veux-tu que je te dise quelque chose ? Véléda est merveilleusement belle, mais d'une beauté surhumaine. Ah, mon gaillard, tu t'allumes ? Non ? Pas encore.
Vorsky hésitait. Vraiment, il sentait le danger grandir autour de lui et monter comme une vague qui s'enfle et qui va déferler. Mais le vieillard ne lâchait pas prise.
Un dernier mot, Vorsky, et je te parle bas pour que tes compagnons ne m'entendent point. Lorsque tu as enveloppé ta mère dans un linceul, tu lui as laissé à l'index, selon sa volonté formelle, une bague qui ne la quittait jamais. Une bague magique faite d'une grosse turquoise qu'entourait un rang de petites turquoises serties dans des gaines d'or. Est-ce que je me trompe ?
Non, mais j'étais seul. Et c'est un secret que personne n'a connu.
Vorsky, si cette bague se trouve à l'index de Véléda, auras-tu confiance ? Et croiras-tu que du fond de sa tombe, ta mère ait délégué Véléda pour te recevoir ? Et pour te remettre elle-même la pierre miraculeuse.
Vorsky marchait déjà vers le tumulus. Rapidement, il monta les premières marches. Sa tête dépassa le niveau de la plateforme.
Oh, la bague. La bague est à son doigt.
Entre les deux piliers du dolmen, étendue sur la table du sacrifice et recouverte jusqu'aux pieds d'une robe immaculée, la druidesse reposait. Son buste et son visage étaient tournés de l'autre côté, et un voile ramené sur son front cachait ses cheveux. Son beau bras, presque nu, pendait le long de la table. L'index portait une bague de turquoise.
« C'est bien la bague maternelle ?»«
Oui, sans aucun doute. »
Vorsky, en hâte, avait traversé l'espace qui le séparait du dolmen et, courbé, presque agenouillé, il examinait les turquoises.
Oh, le nombril est... L'une d'elles est fondue. Une autre disparaît à moitié sous la feuille d'or qu'on a rabattue.
Ne prends pas tant de précautions. Elle n'entend pas et ta voix ne peut pas la réveiller. Relève-toi plutôt et passe ta main légèrement sur son front. C'est la caresse magnétique qui doit la sortir de sa torpeur.
Vorsky se releva. Il hésitait cependant à toucher cette femme. Elle lui inspirait une crainte et un respect insurmontable.
« N'approchez pas, vous deux !»
dit le vieux druide à Otto et à Conrad.
« Les yeux de Véléda, en s'ouvrant, ne doivent se poser que sur Vorsky et n'être frappés par aucun autre spectacle. » « Eh bien, Vorsky, tu as peur ?»«
Je n'ai pas peur. »«
Seulement, tu n'es pas dans ton assiette. Ah, c'est plus facile d'assassiner que de ressusciter, hein ? Allons, un peu de biceps. Écarte son voile et touche son front. La pierre Dieu est à ta portée. Agis, et tu es le maître du monde. »
Vorsky agit. Debout contre l'autel du sacrifice, il dominait la druidesse. Il se pencha sur le buste immobile. La tunique blanche s'élevait et s'abaissait au rythme régulier de la respiration. D'une main indécise, il écarta le voile, puis s'inclina davantage afin que son autre main pût effleurer le front découvert. Mais à ce moment, son geste demeura, pour ainsi dire, en suspens. Et il resta là, sans bouger, comme un homme qui ne comprend pas et qui cherche vainement à comprendre.
« Eh bien quoi, mon gros ? Tu as l'air médusé. Encore du grabuge ? Quelque chose qui ne va pas ? Faut-il que je t'aide ?»
Vorsky ne répondit pas. Il regardait éperdument avec une expression de stupeur et d'effroi qui se changeait peu à peu en une folle épouvante. Des gouttes de sueur découlèrent de son crâne. Ses yeux hagards semblaient contempler la plus horrible des visions.
Oh, Jésus-Marie, que tu es laid! Oh, pourvu que la dernière druidesse ne soulève pas ses divines paupières et n'aperçoive pas ton affreuse binette. Oh, dormez, Véléda, dormez votre pur sommeil sans rêve.
Vorsky mâchonnait des paroles inachevées ou grondait une colère croissante. À coups d'éclair, une partie de la vérité l'illuminait. Un mot lui montait aux lèvres qu'il refusait de prononcer, comme s'il avait peur, en le prononçant, de donner la vie à un être qui n'était plus, à cette femme morte, oui, morte, bien qu'il respirât, et qui ne pouvait pas ne pas être morte, puisqu'il l'avait tuée. À la fin, cependant, et malgré lui, il articula, et chaque syllabe lui coûtait d'intolérables souffrances.
Véronique. Véronique. Oh. Tu trouves donc qu'elle lui ressemble ? Oh, ma foi, peut-être as-tu raison. Il y a un air de famille, hein ? Et si tu n'avais pas mis l'autre en croix de tes propres mains, et si tu n'avais pas recueilli toi-même son dernier soupir, et tu serais prêt à jurer que les deux femmes ne font qu'une même et unique personne, et que Véronique d'Hergemont est vivante, et qu'elle n'est même pas blessée. Pas même une cicatrice, pas seulement la marque des cordes autour des poignets. Mais regarde donc, Vorsky, quel visage paisible, quelle sérénité réconfortante. Oh, ma parole, je commence à croire que tu t'es trompé et que tu as mis en croix une autre femme. Réfléchis. Allons bon, voilà que tu t'en prends à moi. Venez à mon secours, ôte ta tête, le prophète va me démolir.
Vorsky s'était redressé et maintenant faisait face au vieux druide. Sa figure, façonnée pour la haine et la rage, n'avait jamais sûrement exprimé plus de haine et de rage. Le vieux druide n'était pas seulement l'homme qui, depuis une heure, se jouait de lui comme d'un enfant. Il était l'homme qui avait accompli l'œuvre la plus extraordinaire et qui lui apparaissait soudain comme l'ennemi le plus implacable et le plus dangereux. D'un tel homme, il fallait se débarrasser sur le champ, puisque l'occasion s'en présentait.
« Oh, je suis cuit! À quelle sauce vas-tu me manger? Oh, nom d'une bique calogre! Oh, au secours! À l'assassin! Oh, les doigts de fer qui vont m'étrangler! » À moins que ce ne soit le poignard, ou bien la corde. Ah non, non, c'est le revolver. Oh, j'aime mieux ça, c'est plus propre. Vas-y, vas-y, Alexis. Sur 7 balles, 2 ont déjà troué ma tunique numéro 1. Reste 5. Vas-y, Alexis.
Chaque parole exaspérait la colère de Vorsky. Il avait hâte d'en finir, et il commanda.
Otto, Conrad, vous êtes prêts ?
Il tendit le bras. Les deux acolytes braquèrent également leurs armes. À 4 pas devant eux, le vieillard demandait grâce en riant.
Oh, « je vous en prie, mes bons messieurs, ayez pitié d'un pauvre diable, je ne recommencerai plus, je serai sage comme une image, oh, mes bons messieurs !»
Vorsky répéta.
« Otto, Conrad, attention, je compte. » 1, 2, 3, feu!
Le druide fit une pirouette, puis se remit d'aplomb vis-à-vis de ses adversaires et cria d'une voix tragique.
Oh, touché, traversé de part en part, c'est la mort sans phrase. Caput, le vieux druide! Oh, funeste dénouement!
Oh, le pauvre vieux druide qui aimait tant bavarder.
Feu ! Feu ! Mais tirez donc, imbécile ! Feu !
Feu, feu, pan, pan, pan ! Mouchez au cœur, double mouche, triple mouche ! Ah, toi, Conrad, pan, pan, pan ! À toi, Otto !
Les détonations ont crépité et se répercuté dans la grande salle sonore. Les complices se démenaient devant leur cible, ahuris et furieux, tandis que l'invulnérable vieillard dansait et gigotait, tantôt presque accroupi, tantôt bondissant avec une agilité stupéfiante.
« Oh, ça... oh, crebleu ! Ce qu'on rigole au fond des cavernes ! Oh, oh ce que t'es bête, mon Vorsky ! Oh, sacré prophète, va oh, 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 quelle couche ! Oh non, mais comment as-tu pu avaler tout ça ? Oh, les feux de bagarre, les pétards, et puis le bouton de culotte, et puis la bague de ta vieille mère, oh bougre de veau, quelle pocheté !
Vorsky s'arrêta. Il comprenait que les trois revolvers avaient été déchargés. Mais comment ? Par quel prodige inouï ? Qu'y avait-il au fond de toute cette aventure fantastique ? Qui était ce démon ? Qui se dressait en face de lui. Il jeta son arme, inutile, et regarda le vieillard. Allait-il l'empoigner, l'étouffer entre ses bras ? Il regarda aussi la femme, prête à se jeter sur elle. Mais, visiblement, il ne se sentait pas de taille à affronter plus longtemps ces deux êtres bizarres qui lui paraissaient situés en dehors du monde et de la réalité. Alors, rapidement, il tourna sur lui-même et, appelant ses acolytes, il reprit le chemin des cryptes, poursuivi par les colibés du vieux druide.
Ah, allons bon. Et voilà qu'il trotte. Et la pierre Dieu. Et que veux-tu que j'en fasse? Oh non, mais qu'est-ce qui t'étale? T'as donc le feu au derrière. Taillot, taillot. Et va donc, prophète.